Vous écoutez Radio Kapi, il est 8h à Sonabata, au Congo central, 1h de plus à Saba Saba, au sud Kivu, le journal.
Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Crise dans l'Est de la RDC. Les évêques de la SENCO disent apprécier les efforts diplomatiques déployés par le chef de l'État. Ils encouragent toutefois les acteurs politiques à développer le dialogue comme mode de résolution des conflits. Et ceci ressort de l'Assemblée plénière de la SENCO tenue cette semaine à Kinshasa. Par ailleurs, le phénomène Wazalendo ou Patriote est un soutien au FARDC contre le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la RDC, mais c'est une bombe à retardement, c'est-à-dire ce soutien constituera une lourde hypothèque politique pour les années à venir, estime l'Institut de recherche Ebouteli. Ceci est contenu dans son rapport publié hier à Kinshasa. Et puis, à chaque forte pluie, les coulées de boue et chutes de pierres sont signalées sur l'avenue du tourisme derrière le Mont Galiema à Kinshasa, rendant ainsi la circulation dangereuse. Pour en parler, nous recevons Michel Ouyumbu, coordonnateur national des ingénieurs bâtiments et travaux publics BTP. Madame, Messieurs, bonjour. Tous engageons-nous pour la paix et le bien-vivre ensemble. C'est ce qui ressort de la 62e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, assemblée qui s'est déroulée du 12 au 15 mai 2025 à Kinshasa. Dans le compte-rendu de ces assises rendu public hier vendredi, les évêques disent apprécier à leur juste valeur les efforts diplomatiques déployés par le président de la République, ainsi que les moyens consentis par le gouvernement pour l'unité et la stabilité du pays. C'était lors d'une conférence de presse au centre interdiocésain à Kinshasa. Cependant, la SENCO s'est dit préoccupée par le fait que cette crise n'ait fait que s'accentuer à la grande désolation du peuple congolais. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités congolaises. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, en parle au micro d'Étienne Lissoumbou.
Nous recommandons au président de la République de faire confiance à vos pères spirituels en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. L'histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que les Congolais sont parvenus à un consensus sur une meilleure gouvernance du pays. Aux acteurs politiques, de mettre de côté vos luttes pour la conquête ou la conservation du pouvoir afin de réfléchir objectivement sur un projet de société qui va ramener la paix et fonder le bien-vivre ensemble entre les Congolais. Nous vous encourageons à développer le dialogue comme mode de résolution des conflits. Aux organisations de la société civile, aux chercheurs, et toutes les autres dynamiques nationales et communautaires, de vous engager à contribuer par vos recherches et analyses à la production de feuilles de route fiables et viables au peuple congolais.
L'inspecteur provincial de la territoriale du Kwilu demande au nouveau gouverneur de cette province, Philippe Akamituna, d'éviter certains comportements qui plongent la province dans le chaos. Il cite notamment le tribalisme, la corruption, le détournement et la politisation de l'administration. Didier Lawela l'a dit jeudi lors de la cérémonie de remise et reprise entre Philippe Akamituna et son prédécesseur, Félicien Kiwai. Les propos de Didier Lawela, inspecteur provincial de la territoriale du Kwilu, sont recueillis par Irène Boma.
À vous, honorable Philippe Akamituna Ndolo. Désormais, en tant que gouverneur, vous portez les fardeaux de tout un peuple. Vous n'avez aucune excuse à cette population qui a longtemps attendu un capitaine pour conduire son bateau à bon port. Les chavirements, les naufrages, des pannes en cours de navigation vous sont formellement interdits. Permettez-moi, Excellence, de lister quelques griefs qui font couler les bateaux que vous venez de prendre le commandement. L'amateurisme administratif et politique, la corruption et les détournements à ciel ouvert, le tribalisme, l'impunité, même si ça touche la clameur publique, la nomination des personnes incompétentes aux fonctions et aux grades importants, la mauvaise utilisation des biens publics, le non-respect des instructions officielles, la politisation de l'administration provinciale, les soi-disant mentors, la population du Kwilu attend de vous les résultats, non des explications.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, le phénomène Wazalendo, entendez patriote, est un soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo dans leur lutte contre le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la RDC, mais c'est une bombe à retardement. C'est l'essentiel du rapport de l'Institut de recherche Ebouteli sur ce phénomène, rapport publié hier vendredi à Kinshasa. Ce document examine l'émergence du terme Wazalendo, l'histoire et les raisons de l'externalisation de la violence ainsi que son impact sur les communautés locales. Explication Grâce Amzati.
Le rapport indique que le phénomène Wazalendo s'inscrit dans la continuité d'une stratégie régionale de longue date visant à externaliser la guerre à des groupes armés en raison de la faiblesse des services de sécurité ainsi que des profits potentiels et des dividendes populistes que ce soutien peut apporter aux politiciens. Confronté à une armée surdimensionnée mais inefficace, Kinshasa a confié la contre-insurrection à une multitude d'acteurs, des sociétés de sécurité privées, l'armée burundaise, les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et de nombreux groupes armés congolais désormais communément appelés Wazalendo, souligne le rapport. La plupart des groupes ainsi qualifiés existaient déjà, certains d'entre eux se sont déjà affrontés. Leurs motivations sont diverses. D'une part, un sentiment nationaliste, mais aussi la possibilité d'accéder à des financements et à des postes au sein de l'armée nationale et éventuellement de garantir l'impunité pour leurs crimes passés. Ebouteli estime que le soutien aux groupes armés locaux constituera une lourde hypothèque politique pour les années à venir, car il militarise davantage la société, aggrave la crise humanitaire et enracine le conflit. Le rapport conclut en soulignant l'importance à long terme de réformer l'État congolais, ses forces de sécurité et son approche du conflit.
Entre-temps, sur le terrain au Nord Kivu, des affrontements ont été signalés jeudi jusqu'à hier vendredi dans la région de Bambo, territoire de Rutshuru. Bilan, 6 morts et une vingtaine de blessés parmi les civils, ainsi que le pillage de quelques boutiques. Des affrontements qui opposaient les Wazalendo aux rebelles du M23. La situation est restée tendue hier dans la zone. Retour sur les faits avec Greta Lulendo.
Des sources sur place de Bambo confirment qu'après quelques heures d'accrochage ce vendredi matin, les Wazalendo occupent de nouveau Bambo. Les rebelles auraient été repoussés vers Kabizo-Boutare, situé à 2 ou 3 kilomètres de Bambo. Les habitants restent terrés chez eux, craignant d'éventuelles représailles des rebelles. Les quelques qui ont afflué vers l'enclos de l'hôpital de Bambo pour se protéger sont toujours en lieu de refuge. Difficile pour l'instant de confirmer qui occupe Kishishi après son occupation hier par les rebelles. Ces derniers ne sont pas visibles dans le centre de ces villages, selon une source locale. D'autres sources parlent de la présence des FDLR. Les Wazalendo multiplient les attaques et autres embuscades contre les rebelles, ce qui ravive la tension dans la zone et suscite davantage la peur, expliquent nos sources. Des affrontements intenses, parfois à l'arme lourde, opposent depuis plusieurs jours maintenant les rebelles du M23 ou Wazalendo et FDLR dans plusieurs localités de la chefferie de Bwito.
Par ailleurs, plusieurs attaques attribuées aux rebelles des EDF sont signalées depuis une semaine dans plusieurs villages et entités du territoire de Lubero, toujours au Nord Kivu. Jeudi 15 mai, deux civils ont été tués dans une incursion de ces rebelles à Mabuo, un village du secteur de Bapere, situé à 150 km de Lubero centre. Un bilan encore provisoire selon la société civile locale. André Kitenge nous relate les faits.
Les attaques des rebelles des ADF deviennent récurrentes dans le territoire de Lubero, causant des morts parmi les civils. Selon la société civile du secteur de Bapere, ces hors-la-loi opèrent sans être inquiétés par les forces de défense et de sécurité, pourtant présentes dans la région. Samuel Kaeni, son président, déplore cette attaque du village de Mabuo jeudi, causant la mort de deux civils. Il recommande l'intensification des opérations conjointes FRDC et armée ougandaise pour combattre ces rebelles.
À Mabuo, l'ennemi a tiré encore la paix. Population. Alors quand nous sommes en train de demander à ce que les opérations Soudja soient lâchées, les gens pensent que nous sommes en train de réclamer au-delà de cela. Nous réclamons les opérations Soudja. L'ennemi n'est pas poursuivi. L'ennemi est en train d'opérer sans être poursuivi.
Depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, le bilan provisoire des attaques attribuées aux rebelles des ADF dans plus ou moins 6 villages du secteur de Bapere fait état d'une trentaine de civils tués et plusieurs dégâts matériels enregistrés, notamment des maisons incendiées. Certains habitants ont même abandonné leurs maisons pour se réfugier dans des milieux jugés sécurisés, rapporte la société civile. L'armée a promis de tout mettre en œuvre pour protéger la population. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Pendant ce temps, à Bounia, dans l'Ituri, 42 militaires des FARDC, parmi lesquels des officiers, sous-officiers et soldats de rang, ont achevé hier une formation sur la manipulation des différents types de mortiers. Cette formation de 2 semaines était dispensée par des instructeurs des différents contingents des casques bleus de la MONUSCO. Elle vise à renforcer les capacités opérationnelles des soldats des FARDC dans leur mission de rétablir l'ordre et assurer la protection des populations en Ituri, l'une des provinces qui font face à l'activisme des groupes armés. Le compte-rendu de Jean-Claude Loki.
Les principaux objectifs visés par cette formation étaient de renforcer les capacités opérationnelles des FARDC en vue d'assurer de manière autonome la paix et la stabilité, promouvoir le professionnalisme ou encore fournir des renseignements théoriques et des démonstrations pratiques sur l'utilisation des mortiers. Une formation assurée à la demande des responsables de la 32e région militaire. Durant 2 semaines, des instructeurs indonésiens, népalais, bangladais et marocains se sont reliés pour renforcer les capacités des apprenants. Pour le gouverneur de l'Ituri, cela témoigne de la bonne collaboration entre l'armée et la mission onusienne. Le général Johnny Douboya.
Le résultat, c'est que en Ituri, nos forces, ensemble avec vous, ont très bien évolué. Et nous n'avons pas cédé le terrain à l'ennemi. Et je voudrais que cela continue comme cela. Nous avons été dans les opérations ensemble. Vous avez recyclé et entraîné nos hommes. Et vous avez vu sur le terrain, que ce soit les forces spéciales, que ce soit l'infanterie, ils se sont comportés avec bravoure parce qu'ils ont pris votre exemple. Cette préparation de nos unités ou de nos officiers au combat va demeurer. Vous avez laissé un bon souvenir à la RDC, au peuple congolais et au FARDC.
D'autres séances théoriques ont été assurées par les composantes civiles de la MONUSCO. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Les fonds alloués au programme de développement local de 145 territoires ne correspondent pas à la qualité des ouvrages sur le terrain. C'est ce qu'affirme le Centre de recherche en finances publiques et développement local CREFDEL. Cette structure a présenté son rapport de monitoring citoyen sur l'exécution de ce programme au cours d'une conférence de presse tenue hier à Kinshasa. Ce travail concerne 20 territoires, dont 11 visités de 4 provinces, à savoir le Congo central, le Kwilu, le Kwango et le Kasai. CREFDEL demande à l'État congolais d'organiser en toute urgence un audit sur les fonds alloués à ce projet pour que l'argent non utilisé soit récupéré. Valérie Madianga, coordonnateur du CREFDEL, l'a dit au micro de Grace Amzati.
Effectivement, le programme est en train d'être exécuté. Nous avons visité les infrastructures qui existent, mais il se dégage un écart important entre les coûts estimés par les agences d'exécution et la qualité des ouvrages. On estime ça pour la majorité autour de $200,000. Nous pensons que ça peut coûter moins que ça au regard de ce que nous avons visité. Nous pensons également que pour les écoles de 120 bancs, il n'est pas question qu'on puisse dépenser au-delà de $30,000 comme nous l'avons entendu sur le terrain. Nous pensons qu'il est possible d'équiper les écoles autour d'environ $11,000. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous pensons que le cadre de gestion de ces programmes est irrégulier. Pourquoi ? Parce que cela viole le manuel de procédure en vigueur dans notre pays. Nous relevons aussi que le programme doit être repensé au regard des défis que nous avons retrouvés sur le terrain. Il ne faudrait pas que le programme soit centré sur les territoires, mais le programme doit changer pour devenir le programme de développement des entités territoriales décentralisées pour permettre à ce que celles-ci puissent se développer, s'organiser au niveau de la base et déclencher le développement tel que prévu dans le programme du gouvernement.
Présents dans la salle, les représentants de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, ont contesté ce rapport, le qualifiant de biaisé. La CFF fait partie des agences d'exécution du PDL 145 territoires. La première ministre a clôturé hier sa participation au Katanga Business Meeting 2025 par une conférence de presse face aux médias locaux. La sécurité, la transformation industrielle, l'artisanat minier et la coopération internationale étaient au cœur des échanges concernant la paix dans l'Est de la RDC. Judith Souminois appelle à l'unité nationale face aux agressions. Nous devons faire bloc contre l'ennemi, a-t-elle dit. Concernant le corridor de l'Obito, elle estime que c'est un levier de croissance, d'intégration régionale et de création d'emplois. Elle a aussi évoqué plusieurs autres questions, notamment la priorité à l'hydroélectricité, au solaire et aux infrastructures ferroviaires, ainsi que la transformation industrielle. Notez que Katanga Business Meeting s'est tenu à Kolwezi dans le Lualaba. Dans l'actualité aussi, la France réaffirme son engagement aux côtés de la RDC pour améliorer les conditions de vie des Quinois. Cela en mettant l'accent sur l'assainissement, la modernisation des infrastructures sportives et sanitaires. L'ambassadeur de France en RDC et la directrice de l'Agence française de développement ont rencontré pour cela jeudi 15 mai à Kinshasa le gouverneur Daniel Bumba. Ils ont ensemble évalué l'avancement des projets en cours afin d'optimiser les mécanismes de leur mise en œuvre. Le partenariat s'inscrit dans une dynamique de développement et de croissance économique pour la capitale congolaise. L'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchaux, donne ici l'essentiel de cette rencontre au micro de Benjamin Moudoumbi.
C'est la première réunion de travail que j'ai aujourd'hui avec le gouverneur, qui est un peu anormal parce que la ville de Kinshasa est un partenaire très important de la France ici, un acteur important de la relation bilatérale. Donc je suis venu aujourd'hui accompagné de mes collègues de l'Agence française de développement, de la directrice et du chargé de mission, pour faire un tour d'horizon des différents projets que nous avons avec la ville de Kinshasa. Et nous avons un volume total de projets de plus de 60 millions d'euros dans différents domaines. Donc nous avons évoqué les questions du sport avec les terrains de quartier, les questions de santé avec les maternités, laboratoires, mais aussi les questions d'assainissement qui sont particulièrement d'actualité. Donc je remercie le gouverneur et toute son équipe parce que nous avons eu une longue réunion de travail concrète, pratique, avec des conclusions opérationnelles.
Actualité internationale.
Après plus de 20 mois d'assignation en résidence, l'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba, renversé par un coup d'État le 30 août 2023, son épouse Sylvia et son fils Noureddine sont arrivés hier vendredi à Luanda, la capitale de l'Angola. Au Gabon, leur départ en exil suscite des réactions contrastées. Si dans les rues de Libreville, la capitale, les avis sont contrastés, du côté de la famille Bongo, sans surprise, cette mesure apparaît en revanche comme un soulagement.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Michel Ouyumbu, coordonnateur national des ingénieurs, bâtiments et travaux publics. Il s'exprime sur les causes principales de la dégradation de l'avenue du tourisme, communément appelée par les Quinois Nzela Mai. C'est l'avenue qui longe le fleuve Congo derrière Mongaliema à Kinshasa. Après chaque forte pluie, les coulées de boue et chutes des pierres sont signalées, rendant ainsi la circulation dangereuse. Michel Ouyumbu s'entretient à ce sujet avec Benjamin Moudoumbi.
Monsieur Michel Ouyumbu, bonjour. Quelles sont les principales causes de la dégradation de l'avenue du tourisme où pour chaque pluie il y a des coulées de pierres et des boues qui bloquent quasiment la circulation et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enfin avoir des solutions durables?
Merci de nous associer à ce débat qui fait partie de l'ingénierie du TP, qui est évidemment notre domaine. Alors, nous croyons que le problème de l'avenue du tourisme, il est dû au fait qu'on n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments dans le projet de construction de cette route-là. Cette route se trouve au pied d'une colline avec possibilité évidemment des éboulements, des glissements de terrain. Mais qu'est-ce qui a été fait pour empêcher que ces phénomènes apparaissent dans le cadre du projet? Je crois que rien n'a été fait dans ce sens-là. Alors, si on a une route au pied d'une colline, on doit d'abord se dire qu'il y aura une possibilité de glissement de terrain. Il y a une possibilité, évidemment, vous êtes au pied d'une colline et à côté, il y a le fleuve Congo. Et il y a aussi possibilité des inondations qui vont investir cette route-là. Est-ce que la route a été construite à un niveau où jamais elle ne sera pas inondée? Ça, c'est notre problème. Est-ce que la route a été construite de manière à ce que les glissements de terrain ont été gérés? Dans ce cas-là, il aurait fallu des travaux de traitement des talus pour éviter ces glissements de terrain-là. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait sur l'ensemble du tronçon. Alors, chaque fois qu'il y a des pluies, du côté de la colline, évidemment, il y a des eaux qui divaguent et qui viennent vers la route qui se trouve au pied de la colline, emportant dans ces écoulements des eaux-là, dans la divagation de ces eaux, entraîne des matières solides. Et ce sont les matières que nous retrouvons sur la route qui se retrouve au pied de la colline.
Pourquoi les coulées des boues et des pierres reviennent à chaque pluie malgré les interventions?
Mais certainement, ce qu'on est en train de traiter chaque fois, ce sont les effets. On ne traite pas les causes. Pourquoi il y a glissement de terrain? Pourquoi il y a glissement de boue? C'est le problème sur lequel on devait se pencher. On devait se pencher sur traiter les causes de ces glissements pour éviter que nous revenions à la case du départ. Nous sommes en train de traiter les conséquences ou les effets de glissement.
Cela étant, quel type d'infrastructures pourraient être mises en place pour éviter cette situation sur l'avenir du tourisme communément appelé Ndjila ya Mayi?
Traiter correctement les problèmes, faire un bon diagnostic et puis trouver des thérapies appropriées. Il faut absolument que tout l'état là soit totalement aménagé correctement. Et dans l'aménagement du terrain, il faut prendre en compte le drainage des eaux de pluie.
Selon votre expérience, quel modèle de route conviendrait le mieux à ce type de terrain?
Bon, le modèle de route, je ne sais pas ce que vous appelez modèle de route. Peut-être vous faites allusion à une chaussée rigide qui est constituée par un béton de ciment par rapport à l'autre type de chaussée souple qui est, lui, constituée par un béton de bitume. Et de toute façon, le type de chaussée à construire, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, mais il faut savoir que le coût d'une chaussée rigide et le coût d'une chaussée souple sont très différents, mais aussi la durabilité, elle est aussi différente. C'est-à-dire que les chaussées rigides durent beaucoup plus que les chaussées souples et ne sont pas trop exigeants en matière d'entretien, alors que les chaussées souples, elles, ne durent pas très longtemps et sont trop exigeants en matière d'entretien, mais sont moins coûteuses que les chaussées rigides. Donc, je crois que à ce niveau-là, chaussées rigides et chaussées souples, ce n'est pas ça le problème, mais quel que soit le choix qu'on aura fait, il faut qu'on fasse un très bon choix, un très bon dimensionnement, une très bonne mise en œuvre et ça ne posera pas de problème.
Alors, par rapport à ça, une collaboration entre ingénieurs, urbanistes et autorités est-elle envisagée pour des travaux plus efficaces?
Évidemment, dans des pays qui se retrouvent à des niveaux de développement très avancés, les professionnels du secteur ont apporté beaucoup. Évidemment, il doit y avoir des collaborations permanentes entre les professionnels du secteur, les décideurs politiques, les établissements publics ou entreprises publiques qui œuvrent dans le secteur. C'est ainsi que depuis un certain temps, nous, au niveau de la Corporation nationale des ingénieurs VTP, nous croyons qu'il faut qu'il y ait convocation des états généraux des infrastructures. Il faut qu'on puisse discuter de l'ensemble des problèmes que nous avons dans les secteurs. Les problèmes sont variés, bien sûr, mais l'un des problèmes les plus sévères, c'est la dégradation précoce de nos infrastructures, ce qui, évidemment, pose un problème sur la qualité de ces infrastructures-là.
Monsieur Michel Ouyumbu, je vous remercie.
Le coordonnateur national des ingénieurs bâtiments et travaux publics répondait aux questions de Benjamin Moudoumbi. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.